À l'époque où cet épisode a été enregistré, mon invitée, Jeanne, travaillait sur un roman graphique qui retrace l'histoire qu'elle va nous raconter. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous dans la description de cet épisode. Bonne écoute!
Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 30 ans et je suis partie marcher 71 jours sur les chemins de Compostelle en septembre 2019, alors que j'avais jamais mis un pied devant l'autre jusqu'alors.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Jeanne raconte le chemin de Compostelle. Avec elle, on a parlé de destin, de résilience et de bombe au poivre.
J'ai bourlingué à travers le monde.
Comment ça s'est passé? Comme tout le monde en fait, un petit moment où on se questionne sur la vie, ce qu'on a envie de partager, ce qu'on ressent, qui on est. Je me sentais vide de sens, une coquille hyperactive, hein. J'ai toujours fait du sport, j'ai toujours fait plein de choses, et puis je me sentais l'âme de partager mais je savais pas quoi. J'ai fait beaucoup d'études, je suis historienne de l'art, j'avais tout plein de trucs à raconter à tout plein de gens sur les vieilles pierres, et dès lors qu'il s'agissait de moi, j'étais perdue. Et là je me suis dit bon, là il y a quand même un souci, on peut pas se sentir creuse alors que j'allais avoir 30 ans, enfin c'était trop triste. Et une chose en entraînant une autre, j'ai eu l'envie de marcher, je sais pas comment, parce que j'ai jamais marché de ma vie, donc je suis partie comme ça. Et puis par chance, dans mon travail ça se passait pas très bien, et j'ai tout quitté, du jour au lendemain. J'ai fait un dernier voyage, on va dire un peu de consommation, où je suis partie au Canada, où j'ai pris un avion, j'ai pris une voiture de location, j'ai fait tout plein de choses, comme on fait quand on part en vacances, quoi. Et je me suis rendu compte que ça me nourrissait pas, ça me nourrissait de beaux paysages, ça me nourrissait de plein de choses, mais ça me nourrissait pas de manière romantique un peu, qu'est-ce qui me fait évoluer, qu'est-ce qui me fait grandir. Et donc je me suis dit, bon, c'est pas comme ça que je veux aujourd'hui voyager, je prendrai pas l'avion pour partir sur la prochaine destination, j'ai rien qui m'attend en France puisque j'avais plus de travail, qu'est-ce que je fais? Et puis arrivé chez moi, j'ai dit à mon mari que je partais, et le lendemain je partais sur Compostelle pour 71 jours. Donc un petit covoiturage, bah oui parce qu'on prend plus les avions maintenant, et je suis arrivée au Puy-en-Velay, où là j'ai, je sais pas, passé ma tenue de pèlerin, un pantalon un peu trop grand pour moi, de randonnée rose, je dois bien l'avouer, des chaussures que j'avais jamais faites, pas de bâton de marche, un sac trop petit. Bref, je suis partie sous-équipée, dans l'aventure de ma vie, on va dire. C'était vraiment une aventure extraordinaire. Et j'ai décidé de m'attaquer à ce grand chemin qui est le chemin de Compostelle. Pourquoi? Je sais pas trop. Je pense que j'ai été attirée par le principe de la randonnée au long cours, en fait. De se dire, on part longtemps, en itinérance, et on verra bien à quelle sauce on va se faire manger. Et puis, par facilité, faut bien l'avouer. Compostelle, c'est des hébergements tous les 10 km, c'est la facilité de se poser où on veut, quand on veut, les gens sont habitués à voir du monde. Donc je me suis dit, je vais traverser la France, ça va être beau, il y a plein de patrimoine que je connais et que j'avais jamais vu en vrai, et puis il va y avoir du monde, quoi. Et j'ai commencé donc mon cheminement le 17 septembre 2019, à 7h du mat, par la messe au Puy-en-Velay. Autant dire que je me suis posé la question de qu'est-ce que je foutais là, dès 7h du mat, le premier jour de ma randonnée. Mais je pense que j'ai trouvé des réponses, à force de kilomètres et d'ampoules. J'ai bien vu ce que je faisais là, et sans le couvert religieux, c'est vraiment plus une question presque philosophique, mais surtout spirituelle. De partir, de déconnecter, et puis de se faire confiance en fait. Et je pense que j'avais perdu confiance en moi. Et donc je suis partie avec mon tout petit sac orange, mon pantalon rose, mes chaussures bleues trop grandes et puis pas très confortables, et je me suis attaquée à Compostelle. Autant dire que c'était magique, j'ai décidé de partir toute seule, et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires. Donc j'ai commencé par fouler, je dirais, une petite semaine, les chemins, toute seule, en rencontrant des gens ponctuellement, mais c'était d'abord moi, voir comment je pouvais faire, combien de kilomètres, comment on fait pour manger en itinérance et dormir. Toutes ces questions-là qui se sont un peu posées de soi parce qu'il fallait. En fait, il fallait d'abord se poser cette question de comment on fait physiquement et matériellement pour partir en itinérance. Et puis quand j'ai tranquillement répondu à ces questions, sans me faire violence, juste en acceptant de pas avoir de réponse, j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens. Et j'ai cheminé pendant un certain temps avec 4 merveilleuses personnes qui étaient pas du même milieu social, on n'avait pas le même âge, ce n'étaient que des hommes, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de femmes qui randonnent, il faut bien l'avouer. Et je cheminais avec deux hommes qui avaient plus de 70 ans, et deux qui avaient plus de 40 ans. Autant dire qu'on n'était pas du tout sur les mêmes, comment dire, projets familiaux et questionnements sur la vie. Mais ça m'a apporté tellement qu'on a presque cheminé ensemble plus de 200 km, ça fait une petite semaine, et puis pour d'autres jusqu'à la frontière espagnole, donc ça fait presque un mois ensemble, et c'était juste magique. Compostelle, c'est deux pays, hein. On part de France, du Puy-en-Velay, on arrive à la frontière espagnole, et ensuite, de là s'ouvre le chemin qu'on appelle le Camino Frances, qui est le chemin dont tout le monde parle, qui est foulé par des centaines de milliers de personnes par an. Et avant d'arriver à ce chemin-là, je pense que je vais quand même faire un petit zoom sur la partie française, qui est la partie la plus magique que j'ai eu la chance de traverser. C'était magique. Au travers des rencontres, inévitablement, ça rend le cheminement encore plus magique, mais aussi dans toute la découverte de soi. Enfin, je me suis découvert une capacité à marcher avec des ampoules que j'étais jusqu'alors incapable d'imaginer. Marcher avec des ampoules, c'est douloureux. Marcher 30 km par jour avec des ampoules, c'est très douloureux, et passer des jours à marcher 30 km par jour avec des ampoules, ça devient carrément un sacerdoce. Alors c'est un peu la bonne blague hein, quand on est sur un chemin de pèlerinage, mais c'est quand même le cas. J'ai passé des jours à marcher avec les pieds en sang, mais tout le reste me portait en fait. Pas seulement la question de où est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais dormir, mais les discussions qu'on avait au travers, je sais pas, d'une montée dans l'Aubrac, ou la question de comment passer à côté d'un bœuf alors qu'il nous bloque le passage, ou comment on fait quand on se fait attaquer par un chien, parce que ça arrive aussi, c'est des questions qu'on se pose quand on marche. Tout ça, ça a vraiment été des moments très particuliers, de la découverte de soi au travers des autres, parce que ça a été des moments où j'ai beaucoup partagé. Donc c'est vrai que la partie française a été particulièrement intéressante de ce point de vue-là. Et puis la partie française, par chance, c'est aussi des paysages juste extraordinaires. J'ai traversé l'Aubrac, qui est une région hors du commun. Je la connaissais pas, j'ai été bouleversée. J'ai traversé le Béarn, le Gers, enfin, avec des personnes extraordinaires, autant sur le point de vue, on va dire, paysage où les Pyrénées nous ouvrent leurs portes, mais aussi sur toute la gentillesse, la bienveillance, l'ouverture d'esprit que peuvent avoir ces gens qui nous accueillent, qui nous proposent à manger. Il y a tout ça qui font que ça a un côté un peu magique quand même. Et puis la France, c'est un patrimoine. Quand on a beaucoup voyagé, on sait qu'il y a un patrimoine partout et qu'on peut le trouver n'importe où, même en France. Mais quand on a la chance de le traverser à pied, en prenant le temps, parce qu'on l'a le temps, on fait 30, 35 km par jour, mais à notre rythme, 5, 6 km heure, grand maximum, donc on va pas si vite que ça. On se délecte de tout ce qu'il y a autour de nous, et le patrimoine français est juste magique. Le petit pigeonnier, le grenier... le Buron, ces toutes petites ponctuations architecturales qu'on peut découvrir au détour d'un virage, c'est juste extraordinaire. Les causses, enfin tout ça, c'est juste magique. Et cette partie française, elle est extraordinaire, quoi. Donc, à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast et qui veulent faire Compostelle, commencez en France, ça vaut vraiment le coup. Et puis de là arrive la partie espagnole, qui est pour moi un tout autre récit. Arrivé à la frontière espagnole, on découvre un autre monde, on découvre un autre paysage, mais surtout pour moi ça a été le début de la solitude. J'ai quitté tous mes amis que je m'étais faite durant le voyage en France, par choix. J'ai décidé de partir seule parce qu'à ce moment-là j'avais vraiment besoin de me retrouver moi. Et là arrivent de longs kilomètres d'introspection, de réflexion, de discussion avec des scarabées, et surtout avec moi-même. Et là ça a été un peu long. Et en même temps je pense qu'il faut passer par là quand on part sur Compostelle ou sur un chemin comme ça... Au long cours, enfin, ce qu'on vient chercher, évidemment, c'est du lien, c'est des rencontres, c'est des beaux paysages, c'est des ampoules, des courbatures, tout ça, on le sait. Et on oublie vite que ce qu'on vient rechercher, c'est nous, en fait. Et moi, je m'étais un peu perdue dans tout ça, dans toute la partie française, extraordinaire, le papillon dans le ventre, les étoiles dans les yeux. Tout ça, je l'avais eu, et j'avais oublié de me poser des questions sur moi. Et même si j'étais capable de marcher 30 km par jour, même si j'étais capable de me faire confiance, j'étais portée par un groupe... Et j'avais besoin à ce moment-là de me dire, hormis le groupe, est-ce que je suis capable de faire quelque chose seule? Et donc l'Espagne, pour moi, ça a été... ça a été compliqué, hein. Déjà la langue espagnole, je parlais pas. Donc il a fallu se faire un peu violence, mais c'est comme tout, hein, ça s'acquiert. Et puis il a fallu me faire confiance à moi toute seule. Et là, ça a été un peu compliqué. Mais ça s'est super bien passé. Il a fallu un peu de temps. Je dirais qu'il a fallu passer la barre des 1500 km. Donc il faut imaginer que 1500 km, ça doit bien faire un mois et demi de randonnée déjà. Pour me rendre compte qu'en fait, j'étais pas plus bête qu'une autre, quoi. Et que ça passait, même toute seule. Et que je pouvais le faire. Et que je pouvais me faire confiance. Et par chance, 1500 km, c'est un peu le moment où on arrive au milieu du désert espagnol. Donc autant dire que j'ai mangé deux petites semaines de plus dans le désert, toute seule. Donc ça m'a permis aussi hein, de prendre un peu sur moi, de voir où était un peu le point de mon retour, des jours où tu parles à personne et où tu ne vois personne. Et en fait, ça aussi c'est chouette. Ça aussi c'est chouette de voir où est-ce qu'on en est dans notre capacité de résilience à vivre tout seul. Et on se rend vite compte que nous sommes des animaux grégaires et on a besoin de gens. Donc, d'être seul, ça permet de prendre du plaisir d'être ensuite accompagné. Mais sans se perdre, comme jusqu'alors j'ai pu le faire. Et ça aussi, par exemple, ça vaut le coup d'être vécu, parce que sans ça, je pense que je serais toujours dans une sorte de frénésie de rencontre et sans faire vraiment attention à qui je suis et à ce que je veux être. Parce qu'il y a aussi toutes ces questions-là qui se posent quand on croise des agriculteurs à 7h du mat alors que nous, on repart tranquillement de notre campement et que eux, ça fait déjà des heures qu'ils travaillent ou qu'ils se sont à peine couchés parce que c'est les moissons et qu'ils bossent comme des forcenés pour leur passion. Et que nous, on se rend compte que on n'arrive même pas à consommer convenablement ce que eux produisent toute l'année. On se remet vite en question, quoi. On se pose vraiment des questions sur notre consommation en règle générale, enfin... Toutes ces questions-là qui se posaient déjà hein, quand je vivais, on va dire, de façon normée, qui se sont un peu imposées à moi au travers de ces expériences-là. Enfin, on traverse des vignobles, on traverse des exploitations, on traverse des champs de bœufs, et on se pose la question de qu'est-ce que nous on consomme et à quel prix on le consomme ou on le consomme pas d'ailleurs. Ça vaut sincèrement le coup d'être vécu. Ça veut pas pour autant dire que j'ai changé du tout au tout. Hein. Je consomme mieux, probablement. Mais je suis pas revenue changer. Enfin, je pense que j'ai toujours tout un tas de vices. Et encore une chance, sinon ce serait trop facile en 71 jours de se dire qu'on a réussi à tout changer en soi, qu'on n'a plus à évoluer. Enfin, ça aussi on l'acquiert hein, sur un chemin au long cours, de se dire qu'il y a des moments qui sont plus compliqués, des moments qui sont plus faciles. On se délecte des moments faciles et des moments magnifiques, et on courbe un peu les chines et on continue à avancer quand c'est un peu plus dur ou quand c'est moins funky. Parce qu'on sait que demain ce sera plus beau, ou que demain ça sera dingue, ou que ça nous apportera quelque chose, on sait pas encore quoi, mais on commence à croire en la destinée, je pense que c'est ce que j'étais venue chercher. La question de la spiritualité, elle s'est posée sur Saint-Jacques quand je suis arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle, parce qu'on arrive, il y a tous ces croyants, tous ces pèlerins qui sont là, portés par la foi, et moi j'étais portée par mes pieds, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, ça fait 1800 km que je marche, ou 1900 km que je marche, et je me suis rendu compte de ce que j'étais venue chercher, mais je reste une usurpatrice, enfin, qu'est-ce que je fais sur ce chemin où il n'y a que des pèlerins, que des gens qui croient en Dieu, et qui viennent chercher une reconnaissance, une bénédiction, et moi je me pointe juste devant une magnifique cathédrale en restauration, et je me dis, bon, t'as fait tout ça pourquoi? Et là, quand je me retrouve face à moi-même et que je me dis, bon, je pense que c'est pas terminé, c'est pas possible, je peux pas me poser cette question alors que je suis arrivée à mon but, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle, on arrive à Saint-Jacques, c'est terminé. Et là, je me suis dit, bah non, je peux pas m'arrêter là, il faut que je continue. Donc j'ai continué un tout petit peu plus, et je suis allée jusqu'à la mer, en me disant, je trouverai peut-être les réponses. Et en fait, je les ai trouvées. Improbable, mais vrai. Face à la mer, c'était extraordinaire. Ça faisait donc 10 jours que je marchais. Le 71e, on se lève. J'avais retrouvé un ami sur le chemin, que j'avais rencontré en France d'ailleurs, c'était rigolo. On se lève, il prévoit une tempête phénoménale pour la journée, donc on s'harnache. On marche avec un brouillard, c'est simple, on ne devait pas voir. Moi, je voyais pas le sac de mon coéquipier qui était devant moi. Hein. C'est voilà, on voyait rien. Donc on n'a rien vu de toute la matinée, pas de paysage, alors que c'était magnifique. On décide de s'arrêter, mais on savait qu'il nous restait encore beaucoup de temps. On était un peu dans le stress de finir et en même temps dans l'impatience. C'était hyper compliqué à gérer intellectuellement et sentimentalement parlant, c'était atroce, quoi. Et en même temps, on avait vraiment envie d'y arriver. On se retrouve à 4h, 4h30, à 5 km du point d'arrivée, le but, la mer. Il se met à pleuvoir, un truc de dingue, on était trempés, il y avait beaucoup de vent. Moi, je me suis dit que jamais j'y arriverais parce que vraiment, il faisait trop froid, j'étais congelée et trempée. Ça faisait vraiment beaucoup pour la même journée, entre le brouillard, la pluie, le vent. J'en avais marre, j'avais envie d'arrêter. Et puis, je sais pas pourquoi, on continue. Et arrivé en face de la mer, le soleil. Soleil que j'avais pas vu depuis en tout et pour tout, j'imagine, 3 semaines. Ça faisait 3 semaines que j'étais en Galice espagnole, ça faisait 3 semaines qu'il pleuvait. J'avais pas vu le soleil, et là, il se pointe. Mais vraiment, c'était juste extraordinaire. Avec tout ce que ça implique, le soleil, enfin, on le sait tous, hein, c'est juste un rayon lumineux qui fait du bien à tout, à la peau, à l'esprit, à la tête. Et on se retrouve à la fin du chemin, enfin, je me retrouve à la fin du chemin, face au soleil qui m'avait manqué, hein, sincèrement. Il m'avait vraiment manqué ces 3 dernières semaines, qui me réchauffe, parce que j'étais vraiment transit froid. Et là, j'ai compris, en fait, ce que signifiait le destin, enfin... 71 jours avant, j'avais dit à ma famille, je pars pour Saint-Jacques-de-Compostelle, salut. Et 3 jours avant, j'arrive à Compostelle, et je m'arrête pas à Compostelle. Je prends du temps, certes, mais je m'y arrête pas parce que c'était pas ma destinée était d'aller plus loin. Et comment moi je peux le savoir qu'elle était censée aller plus loin? J'avais aucune idée. Et puis les chemins sont bien faits, et puis la tête est bien faite, et je me rends compte face à cette mer déchaînée, parce qu'il y avait un vent de dingue. Je crois qu'il soufflait à plus de 160 km/h ce jour-là. Enfin, c'était vraiment dingue. Et par chance, on est arrivé là. Il faisait beau, alors que beaucoup de pèlerins qui arrivent jusqu'ici ne voient même pas la borne des 0 km. Hein. On a eu une chance de dingue. Et là, j'ai compris que c'était la fin. Et là, j'ai compris que je pouvais rentrer. Et que surtout, j'avais trouvé ma place, en fait. Que j'étais plus vide. Que j'étais absolument plus vide de sens. Que j'avais compris qu'il fallait que je me fasse confiance. Qu'en me faisant confiance, je continuerais à avancer, même si c'était dur. Même si j'avais mal partout. Même si je déprimais à des moments, parce qu'on se pose toujours la question de « mais pourquoi on fait ça ?» Enfin, pas plus malin qu'un autre, quoi. Mais c'est ma place à moi. Aujourd'hui, ma place, elle est sur les chemins, et je l'ai comprise grâce à 2100 km sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui seront très clairement pas les derniers.
Merci beaucoup pour ton récit.
Avec grand plaisir.
Pourquoi tu as voulu raconter ce voyage en particulier ?
En fait, je veux, c'est même pas j'ai voulu, c'est je veux partager... ce chemin, mais en fait je veux partager la possibilité de randonner seule, quand on est une femme, pour qu'on n'ait plus peur. Enfin, c'est-à-dire que avant de partir, j'avais 1 milliard de questions. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que je suis capable? Et dans quel sens il faut prendre ce chemin? Et en fait, ça m'a pétrifiée, quoi. Et pourtant, je suis une voyageuse. J'ai toujours voyagé. Alors, j'ai jamais voyagé en marchant, mais j'ai toujours voyagé, quoi. Et je m'étais jamais posé cette question. Ça semblait plutôt, à chaque fois, découler naturellement, on s'autogérait, le guide du routard, pas d'un coup, enfin. Et là, je me suis retrouvée, mais totalement désœuvrée face à l'ampleur de la tâche à laquelle je me lançais. Enfin, c'était rien, j'avais juste acheté une paire de godasses et à partir marcher, quoi. Enfin, c'était tout. Et en fait, ça m'a vraiment stressée, et je me suis dit, je suis pas la seule, enfin, c'est pas possible. Je peux pas être la seule à me poser autant de questions. Je suis pas la seule à avoir envie de partir marcher, je suis pas la seule à ressentir le besoin aujourd'hui de lâcher un peu avec la société qui nous entoure et toutes ces cases qu'on nous impose et toutes ces obligations face auxquelles on est... Enfin, on n'est même plus imposé, elles sont juste ancrées dans notre rétine, quoi. Et je me suis dit, bah attends, comment tu peux faire, toi, avec ton récit, pour essayer juste d'aider les gens? Et ma solution à moi, ça a été de partager... Parce que moi, j'avais vécu, hein, sans mettre des paillettes et sans rendre ça plus magnifique ou plus magique ou moins magique d'ailleurs. Juste, bah moi, j'ai fait comme ça et c'était pas plus dingue que ça et je suis pas plus forte qu'une autre et je suis pas plus sportive ou plus intelligente. Mais j'ai osé, en fait. J'ai osé, et si aujourd'hui, au travers juste du mot « j'ai osé », d'autres osent et d'autres trouvent leurs réponses parce qu'ils trouveront pas les mêmes réponses que moi. Enfin, c'est qu'un récit de voyage, on aura tous... On peut fouler exactement les mêmes cailloux à 2 jours d'intervalle, ou même à 3 heures d'intervalle, on n'aura pas le même ressenti, quoi. Et ça, eh ben, si grâce à ça, il y a d'autres personnes qui osent, hommes ou femmes, plus ou moins âgées, enfin, ça m'est égal, en fait. Je me dis, si je peux, au travers d'un partage d'expérience, au final, réduire les freins, eh ben, j'aurais gagné.
Tu mentionnes que il y a au final pas beaucoup de nanas qui réalisent le chemin. Tu crois que c'est à cause de ça, parce qu'elles osent pas?
Il y a une proportion de personnes âgées sur le chemin de Compostelle, qui est significative. Donc évidemment, j'imagine que des femmes d'un certain âge se lancent peut-être plus dans le projet Compostelle, ou en tout cas elles doivent se lancer entre copines pour 3 jours, mais des randonneuses, il y en a beaucoup, d'un certain âge, des randonneuses au long cours, il y en a peu, très très peu, je peux pas dire qu'il y en a pas, hein, c'est pas vrai, mais il y en a très peu, on n'est pas si nombreuses que ça, et en effet je pense que les freins, ils sont existants pour les deux, les hommes et les femmes, vraiment je catégorise absolument pas, mais je pense qu'il y a quand même un frein, en tout cas sécuritaire, vis-à-vis de la femme. Après, il y a peut-être une question physique. On doit plus se poser la question de est-ce qu'on va être capable. La réponse est oui. Hein. Je reviendrai pas là-dessus. On est tous capables de le faire. Donc, le fait qu'il y ait moins de, le fait qu'il y ait moins de femmes, c'est que je pense qu'on se pose plus de questions. Et qu'on attend de trouver les réponses à toutes ces questions avant de partir.
Pour ouvrir sur ta manière générale de voyager, à quel point tu prépares tes voyages et quelle place tu laisses à l'improvisation une fois que t'es là-bas ?
Alors, tu vas pas être déçu de la réponse. 71 jours de voyage, c'est imprévisible. Déjà, je savais pas pour combien de temps je partais. Quand je suis partie sur Compostelle, je me suis dit « Ah, ça va être génial. Déjà, quand je vais être à Conques, Conques, c'est 10 jours de marche, hein, je serai trop heureuse, ça va être trop bien, et puis Conques, ça va être trop beau. » Puis arrivée à Conques, je me suis dit « Ah, quand je serai à Cahors, je serai contente. C'est 10 jours de plus. » Et puis à Cahors, je me suis dit « Bon, allez, quand même, tu es capable, tu peux le faire. Tu vas aller jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. » C'est 15 jours de plus. Et puis arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, je suis passée en Espagne, et voilà, et tous les jours je me disais, mais si t'arrives jusque-là, tu seras fière de toi, tu seras contente. Donc en fait, l'improvisation, c'est tous les jours. J'ai été incapable de me préparer. Ma préparation à moi, en fait, elle a été de matérialiser le fait de partir. J'en ai parlé à mon mari, en disant, bon bah, je pars. Il était au courant hein, que je voulais le faire depuis relativement longtemps. Relativement longtemps pour moi, en espace-temps, c'est quelques mois, hein, on est d'accord. Et j'ai commencé à le matérialiser en le disant à 2-3 personnes autour de moi. Et dès lors que c'était matérialisé, c'était organisé. Mais en fait, j'avais pas ouvert un livre, je savais absolument pas comment ça allait se passer. J'avais quand même acheté un bouquin. Oui, j'avoue. Le Miam Miam Dodo, c'est un peu la bible du randonneur, hein, il faut le savoir. C'est super chouette, et je conseille à tout le monde de partir avec. Mais je l'avais même pas ouvert. Je l'avais dans mon sac, et il était au fond du sac, et je l'ai ouvert une fois arrivé au Puy-en-Velay, je crois. Et en fait, je l'ouvrais en gros tous les soirs pour voir quel était le prochain projet de la journée. Mais c'est vraiment... En fait, j'ai rien organisé parce que je voulais apprivoiser cette aventure de façon tout à fait différente et nouvelle et laisser de la place au destin. C'est-à-dire que si on se dit que tous les jours, on va faire, je sais pas, 25, 30, 35 kilomètres, mais on se coupe à une part de magie du destin qui va être la rencontre, le repas avec Bidule et puis... la discussion avec machin, et puis en fait, on se coupe de la moitié du projet. Enfin, le projet, c'est aussi la rencontre. C'est l'introspection, certes, mais c'est aussi la rencontre. Et donc, j'ai passé 2 jours à essayer d'organiser, c'est-à-dire que j'avais réservé 2 jours d'hébergement à 25 km l'un de l'autre. Et puis, une fois que je me suis rendu compte que ça se faisait, ben, j'ai lâché l'affaire en me disant « ça va s'organiser naturellement ». Donc non, j'ai pas organisé, et en fait, ça a un petit côté magique de pas organiser et de se laisser porter par les événements, les rencontres, de se laisser porter par la vie, quoi, et de faire ça, d'ailleurs, ça permet aussi de lâcher un peu du lest. Moi, je suis un peu une contrôle fric, hein, j'avais un peu besoin de tout organiser tout le temps dans toute ma vie, et de faire ça, ça libère intensément, parce qu'en fait, ne pas contrôler la vie, c'est lui laisser de l'espace, quoi. Et quand on a alors compris ça, je pense qu'on l'a tous compris, mais de le mettre en pratique, c'est vachement plus compliqué. Et je dis pas que je le mets tous les jours en pratique, hein. Enfin sincèrement, c'est pas possible dans la vie de tous les jours. Mais en tout cas, sur le chemin, je pense qu'on peut essayer de la réussir, je sais pas. Mais en tout cas, on peut essayer de se projeter dans une vie mais plus relaxe. Sans pour autant être je m'en foutiste, hein, c'est même pas la question, mais juste plus relaxe. Donc, pour répondre à ta question... pour sortir de la digression qui est genre, voilà, mon but dans la vie. J'ai pas trop organisé, et en fait, je m'en suis plutôt bien sortie.
À part des bouquins que tu n'ouvres pas dans ton sac trop petit, qu'est-ce que tu prends toujours avec toi en voyage ?
Une bombe au poivre. Eh ben parce que on a beau se faire confiance, et on a beau faire confiance aux gens autour de soi, on reste vulnérable. J'ai beaucoup voyagé dans des pays qui étaient plus ou moins sûrs, et j'avais toujours cette bombe au poivre sur moi, et en fait c'est mon gris-gris. Tant que je l'ai sur moi, il se passe rien. Alors jamais de la vie, je vais la quitter. Et pourtant ça fait 10 ans que je l'ai, donc à mon avis, si un jour je dois l'utiliser, elle marchera pas. Mais en fait, c'est pas grave. Si elle peut être là et juste me donner la liberté de faire ce dont j'ai envie sans prendre de risques, eh ben, c'est un gris-gris qui pèse pas lourd, qui me rassure et qui potentiellement un jour pourra me sauver la vie.
De quelle façon tu racontes et tu documentes tes voyages? Est-ce que tu as un médium préféré pour le faire?
Alors ça a été un peu la question du chemin de Saint-Jacques. Quand je partais en voyage, et sur Saint-Jacques aussi, j'ai toujours un carnet avec moi. Donc tous les jours, j'écris ce qui se passe dans ma journée, ce que j'ai ressenti, le nombre de kilomètres, où j'ai dormi. Bref, tout ça, évidemment, je le documente sur un petit carnet que j'ai sur moi. Donc en plus d'un livre que je n'ouvre pas, j'ai quand même un carnet et des stylos. En gros, mon sac était rempli de rien, hein, très clairement. Mais ça, c'était ma façon à moi de conserver un récit de voyage. La vraie question, ça a été comment communiquer autour de moi, avec ma famille, pour partager ce voyage. Et là, ça a été plus compliqué. Ça a été très long à mettre en place, intellectuellement parlant. Après, physiquement, ça se fait facilement, mais intellectuellement parlant, comment faire pour donner des nouvelles, communiquer, partager, sans se faire manger par les réseaux sociaux, les photos, les vidéos. Bon, moi, par chance, j'ai toujours fait de la photo. Je sors des Beaux-Arts, donc c'était mon médium de prédilection, la photo. J'ai toujours adoré ça. Par contre, en rando, partir avec son appareil photo, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai un très bon appareil photo sur mon téléphone. J'ai décidé d'utiliser ça. Donc, je fais de la photo. Je suis moins douée en vidéo, mais je vais m'y mettre parce que c'est aussi un super médium pour partager au final. Et ça, je m'en étais moins rendu compte. Mais aujourd'hui, voilà, j'utilise photo et vidéo pour essayer de partager ce qui va me transcender. Mais ça peut me transcender par le rien aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on croise rien. Mais ça aussi, il faut le documenter parce que ça nous apporte tellement à l'intérieur que ce serait un peu dommage de l'oublier ou en tout cas de le passer sous silence. Donc il y a ça, ouais. En fait, mon téléphone, il me sert à tout. C'est un peu triste de dire ça, mais c'est la réalité. Et la photo et la vidéo, c'est aujourd'hui des moyens que j'utilise en partie pour documenter ces voyages-là.
Est-ce que tu gardes contact avec les personnes que tu croises en voyage? Et de manière générale, comment tu considères la rencontre en voyage?
Pour moi, c'est un cadeau, la rencontre en voyage. Je lui donne une place toute particulière, parce qu'en règle générale, c'est toujours des personnes que t'aurais jamais rencontrées dans la vie de tous les jours, parce que t'es toujours cantonné dans ta vie, dans tes petites relations, dans ton monde, quel qu'il soit. Donc en fait, ça a un petit côté assez magique, la rencontre en voyage. Pour moi, c'est un vrai cadeau, je l'adore. Pas tout le temps, par contre. J'ai aussi cette possibilité de me couper de la rencontre, c'est-à-dire que si j'ai décidé de me recentrer un peu sur moi, je laisse aucune place aux personnes autour, et donc j'ai dû rater hein, des personnes géniales, mais je ne sais pas, je les ai pas rencontrées. Par contre, les gens que je rencontre, ils seront à jamais gravés en moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, j'ai des nouvelles de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Sur Saint-Jacques, je peux pas dire qu'il n'y a pas un jour sans que je parle à un ami rencontré sur le chemin, mais pas loin. Et puis ce type de rencontre, elle est particulière. Une rencontre de voyage, elle est particulière, déjà en soi. Mais une rencontre lors d'un voyage au long cours, lors d'un cheminement, d'une randonnée au long cours, elle est transcendante, à chaque fois en fait. Elle te repousse dans des recoins de ta tête que t'avais même pas pensé. T'abordes des sujets auxquels t'avais toi-même laissé un peu de côté, que t'avais pas trop envie d'aborder de toute façon. Tu vas toujours chercher plus loin. Déjà, tu vas, toi, dans ta vie de tous les jours sur le chemin, tu vas chercher plus loin. Donc là, dans ta relation à l'autre, tu vas aussi chercher plus loin et il t'apporte un milliard de fois ce que t'aurais pu développer en quelques mois ou années avec des amis, entre guillemets, normaux. Enfin, il y a quelque chose de la transcendance dans l'amitié que tu peux créer dans ce type de relation. Enfin, moi, j'ai toujours contact avec tous les amis rencontrés sur le chemin et on est très proches.
Pour se parler du retour maintenant, est-ce que tu es atteinte du fameux spleen de la voyageuse, une fois que tu es de retour au pays? Et si c'est le cas, comment tu te soignes?
Quand tu rentres d'un tel voyage, avant le spleen, il faut réparer les bobos. Et les bobos sur un tel périple, ils sont très très nombreux même. Donc il y a tout ça, il y a la fatigue physique qui vient jouer sur le moral, il y a... Bon après évidemment, il y a le retour à la maison, mais j'ai trouvé qu'il n'était pas si compliqué que ça, je m'en faisais tout un monde, hein. Sincèrement, le retour à la maison, je me disais mais que j'y arriverais jamais. Ne plus marcher tous les jours, ne plus avoir d'activité physique sportive, ne plus sortir tous les jours de chez toi, ça a été pour moi des journées d'angoisse, hein, sincèrement. Et en fait, c'était pas si compliqué que ça. Physiquement, ça a été plus compliqué de s'en remettre, parce que tant qu'on est dedans, ça va. le retour où on arrête, en fait, on lâche la pression, on... Franchement, j'ai mis quelques temps à m'en remettre physiquement. Et quand la fatigue est passée, il faut quand même avouer qu'il y a un petit coup de spleen, en fait. Il y a toujours un petit coup de spleen, mais il n'est pas négatif. Il permet juste, je pense, de faire redescendre toute la pression que tu t'étais mise ou que tu t'étais pas mise, d'ailleurs. Pendant 70 jours, il y a tout ce que tu as vécu que tu as besoin de digérer. Et ce moment de digestion, bah, il peut aussi se faire que si tu es dans un moment calme. Et le spleen, ça permet aussi de ne pas être une pile électrique ou une tornade sociale, d'aller voir un milliard de gens et leur raconter ton histoire. C'est aussi... de dire, attends, je prends un petit moment pour moi, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours, et maintenant que je suis revenue, comment je vais me réadapter à cette vie? Parce qu'en fait, on a une capacité de résilience qui est extraordinaire. Hein. Moi, je me suis adaptée à la vie en itinérance. Pendant 70 jours, c'était mon train-train quotidien de me lever, de faire mon sac, de partir, de le refaire le lendemain matin, toujours de la même façon, toujours dans le même ordre, avec les mêmes petites choses qui arrivent à la même place. C'était mon quotidien. Et d'un coup, on défait le sac, on nettoie les affaires, et on le refait pas. Et là, il faut quand même se poser la question de « je le refais pas, mais alors je remplis de quoi ?» Ce moment où je refaisais mon sac, et je remplis de quoi ? Ce moment où j'allais relier un point A à un point B, comment je fais ? Et puis doucettement, la vie reprend son cours, et puis on se réhabitue, on reprend ses marques dans le nouveau train-train quotidien. Il faut juste, et ça on l'acquiert aussi quand on marche, accepter de prendre le temps. Et en fait, ce spleen qui est passé, parce qu'il est passé, je l'ai accueilli, je l'ai accepté, je m'en suis même délectée de me dire que c'était qu'une passade. Enfin, quand on commence à croire en soi et à croire au destin, on sait qu'il y aura toujours autre chose derrière. Et donc c'était juste pour moi une façon de rebondir. Alors bah oui, c'était pas très rigolo, hein, faut bien l'avouer. Mais encore aujourd'hui, je peux me poser des questions sur tout ce que j'ai accompli depuis. Et y a des moments où je suis moins sûre de moi qu'à d'autres, mais... Je me dis que c'est toujours pour rebondir et pour se projeter dans d'autres projets. Et en fait, moi en tout cas aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que j'avance. Donc ouais, je pense que toute personne normale devrait accepter aujourd'hui d'avoir des moments de moins bien. Parce qu'on peut pas être à 100% tout le temps, quoi. Et ne pas le cacher, en fait. Enfin, c'est dommage d'en avoir honte. Et ça aussi, je pense que c'est important de s'en rendre compte. On passe tous par des moments moins funky. Mais c'est la vie. Et c'est comme ça. Et arrêtons de vouloir une vie de paillettes, de dorures et de photos Instagram trop chouettes où ça brille tout le temps et en fait c'est pas du tout vrai, quoi.
Pour se parler du futur maintenant, quels sont tes projets et est-ce que ça va être de la marche ou autre chose?
Oui, ça va être de la marche, si le coronavirus nous le permet, parce qu'il y a toujours cette question-là. En mai 2021, je vais partir du nord des Pays-Bas et je vais rallier... Menton, au sud de la France, en traversant les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, une partie de la France avec les Vosges et le Jura, puis la Suisse, et ensuite de nouveau une partie de la France avec les Alpes. Donc voilà, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était mis bout à bout 2100 km. Ce que je vais attaquer là, c'est 3500 km, avec environ 4 fois plus de dénivelé. Donc voilà, c'est la prochaine étape, tout en autonomie, alors que j'étais en dur, et ça va être chouette.
Pourquoi les Pays-Bas et pourquoi Menton?
Alors c'est parce que c'est un GR qui passe par là, c'est un grand... Donc un GR, c'est un sentier de grande randonnée, qui part des Pays-Bas, qui va jusqu'à Menton, et en fait ça rallie la mer du Nord à la mer Méditerranée. Donc c'est un petit côté assez chouette quand même. J'ai, l'été dernier, donc en 2020, longé la côte bretonne sur un peu plus de 2300 km. Et donc je m'étais dit, bon bah maintenant que j'ai fait Compostelle, la mer, je vais attaquer la montagne. Donc voilà, un nouveau défi. La montagne sur 3 massifs montagneux différents. Donc ça risque d'être touchy.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Donc tu as un petit espace qui t'est réservé, dans lequel tu peux partager une dernière anecdote, une recommandation, un proverbe, une citation. C'est à toi.
Alors je me suis rendu compte que dans tout ce que j'ai dit, j'avais oublié de préciser que le chemin de Compostelle, du Puy-en-Velay à Compostelle, c'est 1650 km. Pour en faire 2100, c'est parce qu'arrivé à 30 km de Compostelle, j'ai décidé de faire marche arrière. Et donc je suis partie sur le chemin du Nord en Espagne, et je me suis rajouté 400 km. Et ça, j'avais juste oublié de le dire, donc c'était pour donner ça comme information. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, à la fin, je me suis pas sentie libre comme je le souhaitais. Et c'est rigolo parce que ça va introduire le petit proverbe que je vais donner après, mais le plus important, c'est vraiment pas le point qu'on va rallier, mais c'est vraiment le chemin qu'on fait. Et en fait, je m'en suis rendu compte à ce moment-là, au moment où j'ai décidé de faire marche arrière, de prendre un bus et d'aller à 400 bornes de là où j'étais censée être le lendemain. Je me suis dit, non, il me faut plus de temps. J'ai besoin de ce temps pour mettre les choses au clair. J'ai compris beaucoup de choses, mais j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'avais pas non plus en arrivant à Compostelle et je l'avais encore pas en arrivant à Cap Finistère face à la mer. Et je l'ai toujours pas aujourd'hui. Mais en tout cas, ça a été pour moi un moment en plus et ça m'a vraiment permis d'accepter cette expérience pour ce qu'elle était et pas pour une grande envolée lyrique, romantique ou fantasmée de ce que ça pourrait m'apporter, mais juste d'accepter ce que j'étais en train de vivre sans plus et sans moins, juste pour ce qu'elle est.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi écouter Bourlinguer sur la web radio Voyage, Allô la planète. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui.